Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous, bienvenue pour votre débat. En cette fin d'année 2018, plusieurs dossiers traités par la justice internationale ont fait la une sur RFI, comme ailleurs. Il y a d'abord le cas Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État ivoirien, pour lequel la Cour pénale internationale doit se prononcer sur une éventuelle remise en liberté provisoire. On attendait la décision la semaine dernière, on l'attend encore. Il y a aussi le dossier centrafricain, Alfred Yekatom, Rambo, remis à La Haye le mois dernier, et Patrice Edouard Ngaïsona, arrêté récemment en France sur mandat d'arrêt de la CPI. Tous deux ont été chefs de milice anti-Balaka. Il y a eu enfin, plus tôt cette année, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président de République démocratique du Congo. Et pour chacun de ces dossiers, des voix, des critiques se sont élevées contre la CPI. Des voix que nous entendons et qui nous poussent à nous interroger ce soir sur RFI. La justice internationale dispose-t-elle de l'outil adéquat ? Et pour en débattre avec nous en studio, et je les en remercie, Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Florence Hartmann, en face de lui, journaliste, ancienne journaliste, essayiste, et anciennement également porte-parole de la procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Bonsoir.
Bonsoir.
Quand on évoque la justice internationale, en matière pénale du moins, on pense spontanément à la Cour pénale internationale. Voilà 20 ans maintenant qu'elle est née du traité de Rome. À l'époque, les attentes étaient grandes. Il faut le dire, on s'en souvient, rendre justice, mettre fin à l'impunité face aux crimes et atrocités. Première question pour vous, Florence Hartmann. Est-ce que ces attentes, selon vous, ont été comblées aujourd'hui ?
Certainement pas, elles n'ont pas été comblées. Cela dit, n'oublions pas qu'on a un instrument qui est une justice internationale, c'est-à-dire un tribunal, qui peut mettre en application, qui est compétent pour les règles de droit international. Alors c'est quoi ça ? Bah, c'est les conventions de Genève, enfin toutes les règles pour que la guerre soit moins barbare, si ça peut exister. Tout ce qui est à déboucher après, pour faire très simple, hein, la grande boucherie de la Première Guerre mondiale et l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour que les armées, tous les camps armés dans les conflits se comportent avec un minimum, entre guillemets, d'humanité, si cela est possible dans une guerre. Donc mettre en œuvre ces règles de comment on fait la guerre et qu'on ne tue pas en masse, c'était impossible dans les tribunaux locaux. Lorsqu'il y avait un conflit quelque part, le pays lui-même, en général, ne faisait rien pendant le conflit, ni après, si l'un des camps avait gagné. Donc, il fallait un instrument extérieur. On a cet instrument. Maintenant qu'on l'a, on peut le juger et on est effectivement déçu par les résultats. Mais une cour pénale internationale qui est censée mettre fin à l'impunité, mais en poursuivant les plus hauts responsables, et pas simplement les exécutants ou les petits chefs, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont tous extrêmement dangereux et commettent des crimes de masse, mais c'est là dans la chaîne de commandement, pour savoir que celui qui est sur le terrain ou dans son palais et qui ordonne à des milices ou à des groupes armés d'aller tuer en masse des gens pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas dormir tranquille chez eux et devront répondre de leurs actes. C'était ça. Or, la CPI, dès le départ, n'a pas eu énormément d'ambition. Elle est allée poursuivre des chefs rebelles, donc pas les plus hauts responsables. Donc, c'est mieux que rien, certes, mais ça n'a pas eu l'effet dissuasif qu'on accordait à la justice internationale. Pas suffisamment de régions, ne pas toucher aux grandes puissances qui vont faire pression. Une justice qui n'est pas assez indépendante, qui n'a pas le pouvoir d'être suffisamment indépendante par rapport aux pressions politiques. Et sur la scène internationale, des pressions politiques, évidemment, il y en a beaucoup.
Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous partagez cette analyse de Florence Hartmann autour des attentes quant à la CPI ?
Oui, les attentes ont été évidemment extrêmement fortes et les déceptions, les désillusions sont un peu à la mesure. Maintenant, il faut quand même rappeler plusieurs points, je crois. C'est le premier essentiel, c'est que c'est quand même une juridiction toute jeune. Il y a 20 ans simplement d'existence de la Cour pénale internationale. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que d'emblée tout soit parfait quand on voit déjà que la plupart des juridictions nationales, y compris dans les pays démocratiques, sont à juste titre source de critiques et présentent certaines lacunes. On peut aussi admettre qu'il faut faire preuve d'un peu d'indulgence pour une institution aussi récente. Le deuxième point, c'est qu'il faut rappeler que la Cour pénale internationale, elle a une compétence qu'on qualifie de subsidiaire, c'est-à-dire que elle n'a pas vocation à juger tout le monde partout pour tous les crimes de guerre contre l'humanité ou de génocide. Ça reste les juridictions nationales qui ont cette compétence. Et ce n'est que quand les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas juger, pour des raisons évidemment qu'on comprend, quand un bourreau est à la tête d'un pays, il ne va pas laisser sa justice le condamner à perpétuité, c'est à ce moment-là que la Cour pénale internationale a vocation à intervenir. Et comme le disait Florence Hartmann, plutôt pour les plus hauts responsables, elle ne peut pas juger tout le monde, donc c'est ce qu'il faut espérer. Alors, il y a un handicap majeur qu'il faut aussi toujours rappeler, c'est que la Cour pénale n'est compétente que vis-à-vis des pays ou des ressortissants des États qui ont ratifié
le statut.
Et le problème, le gros problème principal quand même qui subsiste, il y en a d'autres, après on va y venir, c'est que des États comme les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran, Israël, la plupart des pays du monde arabe n'ont pas ratifié ce statut.
Et donc,
ce qui empêche la Cour d'être compétente. Elle ne pourrait...
Ça crée une justice à deux vitesses, une justice carte à travers le globe.
Ça élimine beaucoup de possibilités d'action. Si on prend la Syrie aujourd'hui, prenons la Syrie, où il s'est passé des choses abominables, eh bien la Cour pénale internationale n'a pas compétence, parce que la Syrie n'a pas ratifié, et parce que les ressortissants syriens qui sont coupables de ces crimes, militaires ou civils, ne peuvent pas ressortir de la compétence de la Cour pénale internationale. La seule possibilité pour y échapper, ça serait que le Conseil de sécurité des Nations Unies décide, lui, de se saisir, et de saisir la Cour pénale internationale. Mais il ne le fait pas parce que bon, il y a le veto des grandes puissances et qu'aujourd'hui la Russie, la Chine ne veulent absolument pas de cette saisine de la Cour pénale. Donc ça, c'est un obstacle. Et après, c'est ce que vous évoquiez aussi, c'en est un peu la conséquence, c'est que c'est l'impression de deux poids, deux mesures, parce que on va cibler par exemple les pays africains, alors pour des motifs qui sont légitimes, parce qu'il y a eu quand même des massacres abominables commis dans les pays pour lesquels la Cour pénale internationale investigue, mais les pays africains, parce que la plupart d'entre eux avaient ratifié au moment de l'adoption du statut. En revanche, on ne va pas aller vers d'autres massacres. J'évoquais la Syrie, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres dans le monde. Et cette impression de deux poids, deux mesures, déjà, c'est évidemment une source de décrédibilisation, quelque part, de la Cour pénale internationale. Alors après, vous évoquiez trois dossiers, Bemba, la République centrafricaine ou Gbagbo. Là, on aborde autre chose, c'est-à-dire, et on va en parler, je pense que Florence Hartmann est bien placée, là aussi pour se prononcer, c'est la politique du parquet, du procureur.
C'est une critique qui revient régulièrement, justement.
C'est une critique qui revient, et il paraît incontestable que quand on a 7 ans d'instruction et de détention pour Laurent Gbagbo, si on n'arrive pas quand même avec des billes importantes pour le procès, pour une mise en accusation fondée, il y a quelque chose qui ne va pas tout de même. Et ça a été le cas pour Jean-Pierre Bemba, qui s'est trouvé finalement acquitté parce que le procureur ne disposait pas d'éléments suffisamment probants à charge pour obtenir sa condamnation. Alors ça interpelle quand même, et ça interpelle surtout du côté des victimes, parce que derrière tout ça, il y a quand même des milliers de victimes qui, quand ils voient que Bemba est acquitté, ou quand ils vont malheureusement sans doute voir que Laurent Gbagbo se trouve remis en liberté, d'une part, c'est une fausse sorte de révolte, puis d'autre part, on se dit, mais à quoi sert la Cour pénale internationale?
Justement, la FIDH, dont vous êtes le président d'honneur, la Fédération internationale des droits de l'homme, avait interpellé au moment de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, il faut entendre la voix des victimes. Mais cette Cour pénale internationale, aussi imparfaite soit-elle, est-ce que c'est pas aussi tout de même un moyen d'entendre ces victimes, Florence Hartmann?
Oui, bien sûr, c'est un moyen parce que ces procès internationaux, ou même au niveau international, ou qu'ils soient reportés sur ces procès sur les violences de masse, à un niveau même local, puisqu'on a eu des cas de cours soit spécial local, soit mixte, avec une dimension locale et internationale.
Et notamment les chambres extraordinaires au Cambodge. Plus récemment, la Cour pénale spéciale en Centrafrique.
En Centrafrique, celle pour le Sierra Leone, etc., mm-hmm. qui sont des instruments complémentaires à la Cour pénale internationale, qui est expatriée à La Haye, hein, comme mm-hmm. était le tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
Mmh. Mais justement, je voulais y venir moi sur ce point avec vous, justement, les victimes.
Elles viennent témoigner dans mmh. les procès, donc ça ouais. leur donnait une parole. En mmh. même temps, la procédure limite le nombre de témoignages. On peut pas faire venir toutes les personnes qu'on aurait envie de. Il faut que ça corresponde à un besoin précis de l'accusation pour prouver tel et tel élément. Les actes d'accusation sont eux-mêmes restreints. Ils ne font pas la biographie complète des suspects. Ils vont choisir, et on voit d'ailleurs en Afrique, dans les dossiers qui ont été traités, prenons par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, où la stratégie de la CPI a été de poursuivre des personnes responsables de crimes de masse dans l'est du Congo, sans jamais se poser la question des liens qu'il peut y avoir avec d'autres régions, sans même nous montrer que c'est pas un conflit tellement ethnique comme c'est très simple de présenter à l'opinion publique lointaine, mais c'est comme très souvent les conflits ethniques de personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble, qui se détestent et qui se massacrent, c'est très souvent avec une stratégie complètement politique qui est derrière. Et là, en l'occurrence, ce qui n'est pas le seul exemple sur la planète, c'est pour les richesses qui existent dans l'est du Congo, et il y a une implication directe, ou peut-être difficile à prouver pénalement, mais en tout cas évidente de la part des États voisins. Et les inculpés, d'ailleurs, étaient très souvent des chefs de milice payés par les États voisins. La CPI devait nous en parler. Et elle ne le fait pas. Donc les victimes, elles vont se retrouver à nous raconter l'histoire d'un massacre épouvantable dans un village qui sera extrêmement représentatif, mais qui nous donnera pas la dimension. Et le résultat, c'est que l'opinion publique aura l'impression, au fin fond de l'Afrique, il y a des gens qui se détestent, comme pour les Balkans que j'ai beaucoup couvert en tant que journaliste et en tant que conseillère du procureur. On voit très bien qu'on ne raconte pas l'histoire des victimes. Moi, je connais bien les victimes par mon travail personnel, pas simplement comme procureur.
Et justement, vous avez été arrêté il y a 2 ans, mis en détention à La Haye, parce que vous avez été condamné pour outrage, justement, au tribunal.
Dit que que les juges écoutaient les dirigeants politiques au lieu de faire leur travail. C'est la raison pour laquelle j'ai été en prison. Et j'étais défendue pour cette raison, évidemment, par les associations de victimes. Mmh. Parce que la frustration qu'il peut y avoir, c'est... les attentes sont énormes et elles sont justifiées. C'est comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'anniversaire est récent. On a envie que chaque paragraphe, chaque phrase soit mise en œuvre. Et il faut des instruments pour que ce soit mis en œuvre. Et évidemment, il y a des intérêts personnels ou politiques ou de clans qui font qu'on essaye de réduire la force de ces règles-là.
Je voudrais juste insister sur un point quand même sur les victimes. Mmh. C'est qu'il y a eu de larges débats au moment de l'adoption du statut sur le point de savoir si les victimes pourraient être présentes au procès. Il faut savoir que le système, c'est l'opposition entre ce qu'on appelle le common law et le civil law. Mmh. Le système anglo-saxon, il n'y a pas de présence des victimes. C'est l'accusation contre la défense et chacun fourbit ses armes. Et il y a éventuellement des témoins, mais... Et il y avait une forte hostilité à ce qu'on ait des victimes, comme on le voit dans la civil law, le droit latin, qui soient des parties civiles, qui soient vraiment présentes. Donc il y a eu un système un peu intermédiaire qui a été trouvé, c'est l'article 68 du statut, où on prévoit une participation des victimes. Et c'est un point quand même important, je tiens à le souligner. C'est encore pas bien utilisé, il y a beaucoup de balbutiements, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais le principe est là. Il y a une participation des victimes qui peuvent, à tous les stades, enquête préliminaire, instruction, procès, qui peuvent faire valoir leur vue et leurs préoccupations. Alors après, c'est compliqué, c'est ce que disait aussi Florence Hartmann. Pourquoi ? On n'est pas en présence de 2-3 victimes. Mm-hmm. On peut être en présence de centaines, de milliers de victimes.
On parle de crimes de masse, bien
voilà,
souvent.
De crimes de masse.
De génocide.
Donc, on ne peut pas recueillir tous les témoignages, outre les difficultés à les faire venir, les entraves qui sont apportées par les dirigeants des pays auxquels ces victimes appartiennent. Donc, il faut qu'elles aient ce qu'on appelle des représentants légaux. Donc, il y a effectivement...
Mais comment faire, justement ?
Quel mécanisme
de...
Alors, le départ, c'est que les victimes, elles souhaitent choisir librement leurs avocats. Les représentants légaux sont des avocats. Et c'est parfois très difficile parce qu'il ne va pas y avoir 100 avocats non plus. Donc, il faut limiter. Donc, il y a un système qui a été mis en place avec un contrôle qui est exercé par le greffe ou le bureau des victimes qui fait que ce sont des avocats qui peuvent être choisis sur une liste qui figure à la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale peut elle-même imposer en définitive qu'il n'y ait pas trop de représentants légaux, un certain choix. Mais il y a quand même cette possibilité. Alors, c'est insatisfaisant, on est tous d'accord là-dessus, parce que la présence reste insuffisante, et parce qu'aussi les moyens manquent. Alors, les moyens d'informer les victimes, parce que pour qu'elles viennent à la Cour pénale internationale, encore faut-il qu'elles sachent qu'elles sachent qu'il y a une affaire qui est en cours, qu'elles aient des possibilités matérielles, donc il y a incontestablement tous ces obstacles.
Mais il y a un rôle de relais pour en parler des ONG qui informent autant qu'elles le peuvent, donc ça dépend des régions et de leur présence et de l'accessibilité du territoire qui essayent de le faire. Il y a un énorme avantage aussi, mais qui n'a pas été réalisé jusqu'au bout, mais le mécanisme existe, contrairement aux premiers tribunaux pénaux internationaux qui étaient pas comme la Cour pénale internationale.
Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, notamment, voilà. Et le Rwanda, qui
donc,
était basé à Arusha, en Tanzanie.
Maintenant, c'est théoriquement à compétence du monde entier, mais bon, on a bien vu que tous les pays n'avaient pas ratifié, donc c'est limité. Mais au début, on avait du coup par coup les tribunaux ex-Yougoslavie, Rwanda, etc. Et là, il n'y avait... on a célébré énormément la présence des victimes parce qu'elles étaient présentes dans la salle d'audience, on entendait des histoires personnelles, etc. Bon, ce qui continuait à être fait, mais elle n'était pas représentée comme vient de l'expliquer Patrick Baudouin devant la CPI, et il n'y avait pas de possibilité de réparation. Oui. Donc on se retrouvait avec des tribunaux et un budget qui payait la défense des bourreaux suspects se déclarant indigents. Donc sans revenu, mais ne payez pas les dommages pour les victimes. Et c'est pas simplement de l'argent, c'est souvent pour se soigner, pour avoir une assistance. Et ça, c'est prévu en associé à la peine prononcée par le tribunal, la possibilité pour les juges, pour les victimes d'aller ailleurs demander l'argent.
Voilà,
donc c'est pas simple.
Justement, pour ouvrir le droit à réparation, est-ce qu'il vaut mieux pas que ce soit devant les juridictions nationales, par exemple, voire des juridictions mixtes, comme on voit en ce moment la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Ce sont des juges internationaux et des juges nationaux. Et d'ailleurs, des critiques s'élèvent. Je parlais d'Alfred Yekatom, notamment, et de Patrice Edouard Ngaïsona. Pourquoi les avoir transférés devant la CPI alors qu'il y a cette Cour pénale spéciale ? Est-ce que c'est pas sur place qu'il faut faire ça ?
Oui, vous avez raison, ça peut être sur place, à condition que ça soit vraiment réalisable. Pourquoi pour la République centrafricaine, effectivement, on peut se poser la question, puisqu'il y a une Cour spéciale. Sauf que la Cour spéciale n'a pas encore commencé réellement son travail, et que c'est bien avant que la Cour pénale internationale s'était chargée d'enquêter et voire de poursuivre sur la République centrafricaine. C'est une explication temporelle, si vous voulez. Alors après, pour les réparations, c'est vrai que la CPI constitue un gros progrès, parce que maintenant il y a un mécanisme de préparation, il y a un fonds qui a été prévu, et puis c'est pas seulement une réparation effectivement financière, qui ne sera jamais à la mesure d'ailleurs évidemment des atrocités commises et des réparations. Mais c'est une réparation qui peut être un suivi médical, psychologique, enfin de rétablissement des victimes pour qu'elles, tant bien que mal, elles reprennent une vie, si ce n'est normale, en tout cas apaisée. Donc il y a tout cet aspect. Qu'est-ce qui manque ? C'est l'argent.
Et comme souvent, c'est là où le bât blesse.
C'est là où le bât blesse. Et si on prend la France, par exemple, qui se targue de soutenir la Cour pénale internationale, ce qui est vrai d'une certaine manière, pour autant, quand il s'agit de contribuer, elle demande à ce que ce soit le statu quo en matière financière. Et ça, c'est aussi un obstacle considérable.
Très bien. Merci Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, et Florence Hartmann, ancienne journaliste et essayiste. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. Restez avec nous sur la radio.